Alors, lorsqu'on aborde la question des risques industriels, un élément apparaît comme central, c'est celui de la proximité industrie-habitat. La proximité industrie-habitat étant considérée comme le principal facteur aggravant des risques et des catastrophes. Et en effet, au cours du XXe siècle, l'industrie s'est profondément transformée, complexifiée, et l'urbanisation, par sa conquête de l'espace, a fini par englober les activités industrielles. Donc c'est ce développement concomitant à la fois dans l'espace et dans le temps qui a conduit à des situations de risque difficiles à gérer aujourd'hui, difficiles à gérer à partir des années, disons, 80, et qui a conduit à des catastrophes lorsque l'accident industriel survient. Donc, de par cette idée que la proximité industrie-habitat était le principal facteur aggravant, les démarches d'évaluation et de gestion des risques au XXe siècle ont essentiellement consisté à contenir l'urbanisation par des interdictions de construire au sein d'un périmètre d'aléas, donc un périmètre d'effet d'accident potentiel. Ceci dit, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Ceci dit, la relation risque-territoire est bien plus complexe que la simple délimitation de zones à risque et l'interdiction de construire dans ces zones. Et la cartographie des zones d'aléas, premièrement, n'a rien d'évident, et surtout, le territoire n'est pas un simple support, comme il a été considéré pendant longtemps. Alors, la relation entre industrie et ville, et plus globalement entre risque et territoire, est donc bien plus complexe et dynamique, dans le sens où les risques liés aux activités industrielles transforment les territoires, et inversement, l'aménagement du territoire transforme les risques. Donc, gérer les risques, c'est prendre en considération tout enjeu d'interactions complexes qui doivent considérer non seulement des aspects techniques, mais aussi sociaux, économiques, culturels, psychologiques, juridiques. Parce que gérer les risques, c'est trouver un compromis entre la sécurité des populations et le développement économique et social. Et donc, automatiquement, comme l'ont montré depuis longtemps un certain nombre de chercheurs, notamment Claude Gilbert, politologue spécialiste des risques majeurs, le risque fait l'objet d'une négociation pour trouver ce compromis. Et cette négociation, elle s'appuie sur la carte. Et donc, le deuxième aspect vise à montrer le rôle de la carte comme support de la négociation. Et la nécessité de plus en plus de disposer d'outils d'information qui permettent d'intégrer les différentes dimensions du risque, notamment les différentes formes de vulnérabilité des territoires. Ces outils doivent permettre aussi d'intégrer les visions, les représentations que les différents acteurs ont du risque et les pratiques donc qu'ils mettent en œuvre pour réduire ces risques. Donc, ça va être ma dernière partie où je vais présenter des travaux que nous avons menés sur le développement d'outils géographiques, donc d'outils systèmes d'information géographique pour avoir une gestion un peu plus complète des risques, prenant en compte à la fois les aléas et les vulnérabilités. On va essayer de tenter jusqu'à la notion de résilience, mais vraiment de façon plus succincte. Donc, je vous propose tout d'abord de regarder comment la relation ville-industrie a évolué au cours du XXe siècle et qui a conduit donc à des Seveso par centaines. Deuxièmement, de rendre compte de l'évolution qui s'opère dans l'évaluation et la gestion des risques industriels, de l'idée de faire face à des aléas, à la réduction des vulnérabilités et au développement de la résilience des territoires. Et de montrer comment les outils de la géomatique accompagnent l'évolution de ces concepts et aident à une gestion plus globale des risques. Dans un premier temps, donc, l'évolution des relations industrie-ville. Depuis le 19e siècle, la prévention des risques industriels est basée sur un principe d'éloignement. ou un principe d'isolement de l'activité industrielle. Ce sont les incendies, les épidémies et surtout les nuisances liées aux nouvelles industries chimiques qui ont conduit à des mesures visant la délocalisation des établissements dangereux et nuisants, à leur isolement ou du moins au respect d'une certaine distance avec les habitations. Donc, les industries les plus dangereuses sont rejetées hors de la ville, vers les faubourgs éloignés et le plus souvent au bord d'un fleuve. C'était dans le double intérêt de l'industrie et de la population, disait-on. C'est-à-dire que les usines pouvaient se développer sur des terrains vacants avec un approvisionnement en eau, plus des voies navigables et puis par la suite le chemin de fer. Donc, ça a donné naissance aux premiers espaces dédiés aux activités dangereuses, aux activités nuisances, aux activités à risque. Donc, cela a été renforcé par le décret du 15 octobre 1810, dont on a parlé tout à l'heure, qui instaurait un certain nombre de mesures qui sont encore en vigueur aujourd'hui, donc qui ont été reprises par les différentes lois de 1976 notamment, c'est-à-dire la mise en place de l'autorisation préalable, une nomenclature des installations classées, et puis l'éloignement de la première classe. Cette politique, de ce principe de l'isolement, a été renforcée par les lois de 1919, de 1924 et de 1932. Ces lois ont renforcé cette concentration des industries hors de la ville, dans la mesure où elles prévoyaient que les communes de plus de 10 000 habitants élaborent un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension donc de la ville avec la politique de zoning industriel, c'est-à-dire une séparation entre habitat et activité. Donc à partir de ce moment-là, les industries gagnent en surface et en concentration hors de la ville. Mais cet éloignement va avoir du mal à perdurer, dans la mesure où à partir des années 30 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 80, va s'opérer progressivement un rapprochement ville-industrie, pour des raisons à la fois sociales et financières. Ce rapprochement s'est fait en trois phases et c'est très bien décrit par Emmanuel Martinet qui a travaillé sur le sud de Lyon. Donc il a étudié ce rapprochement en considérant les trois phases suivantes. Premièrement, à partir des années 1930, on est donc dans une politique de zonage industriel, mais avec construction des cités ouvrières directement à proximité des usines. Ces cités ouvrières étaient donc construites par l'industriel sur ces terrains. Et était salué hein, en fait un peu par tous, puisque on considérait que c'était bien d'une part d'être à proximité du travail et d'aller à pied. Donc on voit qu'on retrouve ces éléments aujourd'hui avec le développement du rame, mais aussi l'industriel avait à portée de main donc cette population ouvrière. Donc ça c'était un premier point, une première prémisse, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, lors des Trente Glorieuses, où l'activité industrielle s'est très fortement développée et où l'urbanisation a également commencé à se développer. À partir des années 75, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise du pétrole. Et là, il commence à y avoir des pertes d'emplois. Mais pour éviter que les classes moyennes ne s'éloignent, enfin ne partent ailleurs, hein, donc vers la ville-centre, les maires de ces communes industrielles ont mis en place un certain nombre de mesures d'accession à la propriété, de rénovation, permettant de maintenir un certain dynamisme économique et social, et donc de maintenir la population moyenne. Et donc finalement, on arrive à une situation où on a finalement l'industrie et l'habitat qui sont complètement imbriqués, ou en tout cas qui se côtoient. Alors, juste pour vous faire prendre un petit peu la mesure de ce développement parallèle de l'industrie et de l'urbanisation, quelques chiffres ici, pour montrer qu'entre 1950 et 80, l'activité industrielle s'est très fortement développée et complexifiée. Entre 1950 et 80, la production chimique et la taille des unités a été multipliée par 10. Les ventes de gaz par 30, les flux de transport de matières dangereuses par 5, et surtout les stockages ont largement augmenté, passant de 10 000 à 120 000 mètres cubes, par exemple, ou les tankers de 40 000 à 550 000 tonnes. Donc vraiment, le développement industriel et en même temps la transformation de cette industrie qui s'est largement complexifiée avec l'introduction tous les ans d'une centaine de nouveaux produits. Donc on est assez mal les impacts sur la population. Et puis parallèlement, la conquête de l'espace par l'urbanisation entre 62 et 90, pas tout à fait dans les mêmes chiffres, mais presque. Donc une augmentation de 30% de la population des principales agglomérations en France pour donc atteindre jusqu'à 74% en 90. Ce qui fait qu'on arrive à des situations d'imbrication qui sont très difficiles à gérer ou de voisinage. Parce que les enjeux sont très variés, les enjeux sont multiples. Surtout dans les communes où la commune a grandi avec l'industrie. Donc ici, par exemple, au sud de Lyon, l'industrie représente 60% de la taxe professionnelle. Mais les zones, donc un enjeu très, très fort de maintien de cette activité. Mais d'un autre côté, dans les zones à risque, on trouve 11 700 résidents, 18 400 emplois, 2 000 enfants scolarisés, une autoroute, une ligne de chemin de fer très fréquentée. Ce n'est pas une situation isolée. On peut reprendre l'exemple de Toulouse, puisqu'on va en parler tout à l'heure avec l'explosion d'AZF. À Toulouse, on a le même scénario, hein, c'est-à-dire qu'ici, on trouve le centre-ville. Et environ à 5 km à vol d'oiseau, on va trouver la zone du chapitre, la zone industrielle du chapitre, avec ici la localisation de l'ancienne usine AZF, de la Société nationale des poudres et de la tolochimie. Alors, on voit bien comment s'est développé ce rapprochement. Par exemple, l'urbanisation en 1904 était pratiquement contenue dans cette zone-là, le centre urbain, le centre-ville actuel. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, on a encore quelques faubourgs, mais c'est tout. Et les anciennes usines chimiques, AZF, SNPE et Pitolochimie, se trouvaient donc plus au sud. Et vous voyez sur cette carte-là, donc tout ce qui est en jaune, des espaces qui ont été urbanisés après 1950. 1950 et 2000, donc rapprochement de la ville vers l'industrie. Donc l'ensemble de l'espace est comblé. Avec la ZUP du Mirail qui, elle seule, regroupe 25 000 logements. On a des activités industrielles au sud. On a l'autoroute qui s'est terminée donc dans les années 90, il me semble, avec le comblement, là encore, des derniers espaces par des commerces, des services, des équipements. Donc cette logique-là, on va la retrouver dans toutes les grandes villes. Et ça, ce n'est pas un cas unique, mais général en France, puisqu'ici, vous avez une carte sur la localisation des établissements Seveso en France. Et à peu près 1 200 établissements Seveso 2, dont 70% de ces établissements sont situés dans les aires urbaines et 56% des seuils hauts, donc des établissements les plus dangereux, dans les pôles urbains les plus denses. Alors, il a fallu une série de catastrophes industrielles pour faire prendre conscience du risque lié à la proximité industrie-habitat, pour faire prendre conscience que finalement des accidents sont toujours possibles, parce que l'industrie s'est profondément transformée, et pour faire prendre conscience que le droit de l'urbanisme n'avait pas permis de sauvegarder, enfin de préserver une distance de sécurité en quelque sorte. Donc ces catastrophes industrielles, ces Seveso, Los Alfalques, donc dans le transport de matières dangereuses, Mexico bien sûr, Bhopal, qui vont tirer la sonnette d'alarme, donc ils vont avoir un très fort bien sûr retentissement au niveau mondial et qui vont conduire à de nouvelles réglementations et à l'émergence donc de la notion de risque majeur et à la mise en place d'une politique de prévention. Donc, la notion de risque industriel majeur a été développée par Patrick Lagadec en 1981 dans sa thèse où il examine, où il analyse un certain nombre de catastrophes industrielles. Et cette thèse a eu un fort retentissement au niveau ministériel. Donc, il définit le risque technologique majeur comme un risque ayant une faible fréquence, qui entraîne une faible conscience de risque et une ignorance au sein des sociétés, et une énorme gravité, avec des dommages importants, des perturbations durables, des équilibres naturels et sociaux, sur une large échelle, qui le rend particulièrement inacceptable. Donc, une nouvelle politique de prévention des risques va se mettre en place à partir de cette notion de risque majeur. Donc, nouvelle réglementation, directive Seveso notamment, et leur application en France avec l'adaptation de la loi de 1976, la loi de 1987, avec cette nouvelle logique de prévention basée sur un principe de zonage. Donc, on passe de l'idée d'un principe d'éloignement, mais qui est toujours présent. Il est toujours présent, la notion d'éloignement reste présente, mais on ne va plus raisonner en termes de répartition d'air fonctionnel au sein d'une agglomération, mais plus en termes de principe de zonage, donc de gestion de voisinage. L'établissement industriel est un périmètre de sécurité. Et c'est à partir de ce moment-là que vont être mises en place les premières cartographies des risques, les cartographies focalisées sur l'aléa. L'idée, donc, pour l'élaboration de la gestion des risques, c'est de faire face aux risques. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, là encore, notamment à Claude Gilbert, qui fait le parallèle un petit peu entre faire face aux risques et faire face à un ennemi. Faire face à un ennemi, ça veut dire cibler cet ennemi, c'est-à-dire ici des dysfonctionnements au sein de l'usine, de les contenir, de les affronter. Donc la gestion des risques va reposer sur l'identification des causes des accidents au sein de l'usine, comprendre ses origines, les conditions de survenue et calculer les probabilités d'occurrence. Ça va consister à se protéger en réduisant ses possibilités de survenue, donc en mettant en place des systèmes de surveillance, des systèmes de défense qu'on appelle des barrières au sein de l'entreprise industrielle notamment, à se préparer à faire face à l'événement par l'organisation des secours, donc en planifiant les mesures à prendre, en préorganisant les moyens d'intervention, en calibrant ces moyens d'intervention, en les répartissant dans l'espace, et puis à éviter d'en subir les conséquences en interdisant de nouvelles constructions. Donc on est un peu dans cette logique de faire face à quelque chose qui serait extérieur au fonctionnement des territoires, mais que les territoires subiraient. Donc la cartographie qui va être mise en place, basée sur l'aléa, va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire, donc là on se situe dans les années 70, 1970 à peu près, donc entre 70 et 80. Donc tout le monde va être d'accord pour dire que le risque, c'est la conjonction d'aléas et de vulnérabilité, mais pour la prévention et la gestion des risques, on va définir le risque comme la probabilité d'un événement pouvant entraîner des effets graves dans une aire donnée. Donc ça va consister à, en France, on va rester pendant assez longtemps dans une approche plutôt déterministe, même si ce terme est assez contesté, même à l'époque, néanmoins une approche déterministe dans le sens où les probabilités ne sont pas quantifiées, elles sont uniquement prises en compte à travers le choix des scénarios d'accident de référence. Donc la démarche va consister à définir un certain nombre de scénarios d'accident graves, donc d'accidents majeurs, et à calculer les distances d'effet de ces accidents, et à déterminer ainsi deux zones à risque, une première zone de mortalité, létalité, et une deuxième zone de blessures irréversibles. Attachées à ces zones à risque vont être définies des contraintes d'urbanisme. Interdiction de tout nouveau projet au sein de la zone Z1, et interdiction d'établissements recevant du public ou encore de voies en grande circulation dans les zones Z2. Mais on ne s'occupe que de l'urbanisation future. Ces contraintes vont devoir être intégrées dans les plans d'occupation des sols et donc plus tard les PLU. C'est-à-dire qu'il va y avoir un porté à connaissance de ces contraintes, de ces zones à risque et des contraintes associées au maire qui est censé les prendre en compte dans ses documents d'urbanisme. Or, le maire, lui, il a ses projets sur ses territoires, donc va se mettre en place une négociation en fonction des enjeux du territoire. Et cette négociation va s'appuyer sur la carte. François Duchesne, qui a travaillé sur des communes donc au sud de Lyon, notamment Roussillon, montre comment cette négociation s'est faite. Donc la négociation porte dans un premier temps sur la réduction des périmètres à risque. L'objectif, c'est de réduire au maximum les zones à risque de façon à pouvoir libérer le terrain constructible. Le deuxième terme de la négociation porte sur les contraintes d'urbanisme elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas autoriser au sein de quelle zone? Dans un premier temps, les discussions portant sur les réductions des risques à la source, donc les moyens mis en œuvre pour réduire les risques au sein de l'établissement industriel, vont conduire, dans bien des cas en France, à réduire assez considérablement les périmètres à risque et parfois même à les supprimer. Par exemple, en enterrant des stockages ou en changeant un procédé de fabrication. Par exemple, en supprimant le chlore dans le blanchiment du papier. Et donc, on va parfois avoir une réduction assez considérable des périmètres à risque. La deuxième terme de la négociation, lorsqu'on a réduit les risques aux sources au maximum, ça va être de discuter sur la façon dont ces périmètres sont élaborés. On est dans une démarche déterministe où on ne prend pas en compte les probabilités d'accident. Donc, il y a des discussions qui vont porter là-dessus, en se disant que le risque est absolument négligeable par rapport aux autres risques de la vie courante, comme on le fait ailleurs, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Donc, les discussions vont porter sur les méthodes d'évaluation des périmètres à risque. Parfois, des contre-expertises vont conduire à réduire ces périmètres à risque. Ici, en l'occurrence, il s'agissait le périmètre le plus étendu, consistait la mise en œuvre, impliquait des gaz lourds qui peuvent être bloqués à une certaine hauteur par des travaux, par exemple, d'autoroute ou autre. Donc, ça va permettre encore de réduire un petit peu le périmètre. Et puis ensuite, dans un dernier temps, les discussions vont prendre en compte non pas des aspects techniques, mais des aspects sociaux, c'est-à-dire des effets de dévalorisation possible de cette zone potentiellement impactée, où les élus vont mettre en avant le fait que ces zones vont finalement subir un processus de paupérisation, dans la mesure où la classe moyenne risque de déménager et que finalement ne vont s'installer ici que des habitants socialement défavorisés ou ayant peu de revenus ou de la dernière vague d'immigration. Donc des gens particulièrement vulnérables. Et donc ça va conduire à des quartiers placés en marge du développement urbain, puisqu'on ne tient compte que des développements futurs et non pas de ce qui existe déjà. Donc finalement, on voit assez rapidement les limites de cette approche basée sur les périmètres d'aléas et sur l'urbanisation future. Les limites sont liées au fait qu'il s'agit là uniquement d'une relation de cause à effet. Dans la mesure où l'aléa est considéré comme la cause première qui produit des effets sur des enjeux qui ne font que réagir à ces effets. Donc ces enjeux sont considérés un peu comme des objets inertes. Et c'est l'aléa qui contient, c'est au niveau de l'aléa qu'on va retrouver toute la dynamique du risque, alors que le territoire a sa propre dynamique. Et donc plutôt que de raisonner en termes de superposition, périmètre d'aléas auquel on superpose des enjeux, que l'on autorise ou pas, on ferait mieux de raisonner en termes d'interaction, dans la mesure où le territoire, lui, peut également avoir des ressources pour combattre un risque ou pour faire face à un aléa. D'autre part, on est dans une vision très dichotomique. On est dedans, on est dehors. Donc, on va tout faire pour être dehors. Donc, finalement, AZF va pointer ses insuffisances de la gestion des risques. Qu'est-ce qui s'est passé à AZF? Eh bien, c'est un accident, une catastrophe, qui est arrivée le 21 septembre 2001, donc peu après les World Trade Center. Donc déjà, il y avait une ambiance un peu de psychose à ce moment-là. Donc l'accident est survenu dans l'usine AZF, qui est une filiale de Total Fina Elf. Et le scénario était celui d'une explosion d'un silo de stockage de 300 tonnes d'ammonitrate. Donc c'est des engrais azotés. Qui a provoqué la mort de 30 personnes proches du site, 2000 blessés, des dégâts matériels très importants, avec la nécessité de reloger plus de 1000 personnes, 3625 entreprises qui étaient touchées, la compagnie de bus très, très fortement impactée. Donc, cette catastrophe va, comme je vous disais, montrer les limites d'une gestion des risques basée essentiellement sur l'aléa. Puisque qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, premièrement, que des habitations et l'autoroute jouxtaient l'usine et que ce sont finalement les installations les plus proches de l'industrie qui ont le plus subi les conséquences. Mais deuxièmement, que le scénario d'accident qui s'est produit n'était pas cartographié, parce que n'était pas retenu comme étant un scénario raisonnablement probable. Il était considéré comme très hautement improbable, donc n'était pas pris en considération dans le cadre de l'étude de danger. Donc, que finalement, tout scénario, tout accident peut toujours survenir. Troisièmement, la gestion des risques a montré également que des aspects organisationnels pouvaient soit limiter, soit aggraver les conséquences. Les sirènes d'alerte, par exemple, ont été complètement détruites par l'explosion. Et il n'y avait pas de système redondant, puisque les moyens de télécommunication étaient complètement saturés. Bon, Internet n'était pas saturé, mais la réflexe était quand même de prendre son portable. Donc autant les mobiles que les téléphones d'urgence étaient complètement saturés. D'autre part, la population, de ce fait, se trouvait dans la rue, hein, ce qui a entraîné de nombreux blocages au niveau de l'accès des secours. Chacun croyait que l'accident était arrivé à côté de chez lui. Donc, les gens sont sortis. L'objectif était d'assez rapidement aller chercher les enfants à l'école ou de retrouver ses proches, ce qui, dans les plaquettes d'information, tout le monde le sait, ne doit pas se réaliser. D'autre part, ce qui en est ressorti, c'est que la population socialement la plus défavorisée était la plus impactée. Donc, globalement, la société socialement la plus défavorisée est aussi celle qui est la plus vulnérable par rapport au risque. Ça, on le sait au niveau mondial, lorsqu'on regarde les cartes au niveau mondial, mais c'est également le cas au niveau des agglomérations françaises. Et d'autre part, que cette population était particulièrement démunie et puis, dans un deuxième temps, en colère, dans la mesure où le soutien psychologique était donné essentiellement au centre-ville, alors que la population qui en avait besoin se trouvait dans les cités en périphérie. Donc il y a un ensemble d'éléments liés non pas à des facteurs physiques, mais à des facteurs organisationnels qu'il faudrait prendre en considération. Donc, après cet accident, cette catastrophe, on peut dire AZF, une nouvelle réglementation va être mise en place, la loi du 30 juillet 2003, qui va conduire à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques. Les plans de prévention des risques naturels existent depuis bien plus longtemps, mais les plans de prévention des risques technologiques n'existaient pas avant donc 2003. Ça va conduire à une nouvelle logique de prévention. L'objectif des PPRT, c'est d'une part d'empêcher les situations de s'aggraver, c'est-à-dire éviter de nouvelles constructions autour des établissements à haut risque, mais également de remédier aux situations déjà graves. Donc, de tenir compte également de l'existant autour des établissements à risque. Et donc, cela va conduire à une prise en compte, une meilleure prise en compte des enjeux et vulnérabilités. Les cartographies vont également être revues, puisque dans le cadre des PPRT, de nouvelles cartographies vont être élaborées, définissant des secteurs différenciés autour d'une installation à risque, avec des mesures différenciées et hiérarchisées. Donc des mesures plus différenciées que précédemment, où on avait nos deux cercles. Il s'agit donc de prendre en compte plus d'éléments pour cartographier les zones d'aléas et tenir compte des différents types d'enjeux et vulnérabilités de ces enjeux. Donc les mesures différenciées vont être des mesures d'interdiction de construire comme précédemment, mais aussi des mesures constructives, c'est-à-dire renforcer le bâti pour le rendre moins vulnérable en cas d'accident pour les constructions qui existent. Des mesures, d'autre part, qui touchent au droit du sol, l'expropriation, le délaissement, donc un élément nouveau. Ça veut dire que toute personne qui se trouve dans une zone donnée à haut risque peut donc quitter son logement et céder à la collectivité de racheter cette habitation au prix du marché. Et puis des procédures de préemption. Donc on voit qu'on arrive à finalement à une logique de gestion des risques qui tient beaucoup plus compte du fonctionnement global du territoire. Alors, ça va conduire aussi à engager plus d'acteurs dans la gestion et la prévention des risques. L'évaluation des aléas va être réalisée par les DREAL, les ex-DRIR. Les enjeux et vulnérabilités vont être cartographiés par les directives départementales des territoires, donc les ex-DDE. Et d'autre part, à partir de là, une stratégie de prévention va être mise en place visant à définir donc un règlement avec les différentes mesures qu'on vient de voir tout à l'heure. Il y aura également une phase de concertation avec notamment l'élaboration d'un comité local d'information et de concertation qui réunit à peu près une trentaine de personnes avec des administratifs, des élus, des riverains, des salariés, des industriels. Pour arriver, au bout du compte, après une concertation plus large avec le public, à l'approbation d'un règlement après enquête publique, donc défini par règlement signé par le préfet. Donc on voit aussi que cette prévention des risques et la prise en compte des vulnérabilités va conduire à élargir très largement le champ des acteurs. Donc les PPRT vont conduire à une nouvelle démarche cartographique, un croisement d'aléas et d'enjeux. La mise en place de ces PPRT va surtout montrer qu'il est nécessaire d'analyser le risque, les enjeux, les vulnérabilités au-delà de la zone d'aléas. Alors, on va peut-être prendre un petit peu l'exemple de Strasbourg, où on a le port au pétrole avec 6 établissements Seveso, des zones d'habitat à proximité et puis des zones de loisirs un petit peu plus haut. L'enjeu principal, qui fait blocage d'ailleurs aujourd'hui au niveau du PPRT, c'est une route qui longe le Rhin et qui passe dans une zone de très fort plus, c'est-à-dire une zone où la probabilité d'effets graves pour la population est très élevée. Donc, ce qui va entraîner quoi au niveau du règlement? Eh bien, l'interdiction de pratiquer cette route. Or, le problème, c'est que cette route amène conduit vers la zone de loisirs qui se trouve plus haut. Une zone de pêche, une zone de baignade, donc qui se trouve là. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution pour accéder à cette zone de loisirs. Cette autre solution serait de construire une nouvelle route qui passerait par une forêt, mais par une forêt qui est en passe de devenir une réserve naturelle, par la mairie. Et donc, du coup, il y a blocage, il y a blocage, il y a opposition, mais ça montre bien que le risque ne peut pas être défini uniquement au sein d'un périmètre, que des éléments qui se trouvent au sein d'un périmètre à risque vont être en interaction ou en tout cas en relation spatiale avec d'autres éléments en dehors de ce périmètre. Donc les leçons des premières mises en place des PPRT sont bien celles de gérer des risques et des sont bien le fait que la gestion des risques et des catastrophes ne peut pas se limiter à un périmètre défini par les aléas. Que les éléments du territoire au sein d'une enveloppe d'aléas sont connectés ou en interaction avec d'autres éléments plus éloignés, en tout cas qu'il y a des relations spatiales existant entre ces éléments. Deuxièmement, ceci fait que les mesures prises en un lieu et à un moment donné pour réduire les risques identifiés peuvent avoir un impact en un autre lieu et sous une autre forme. Et puis enfin, les acteurs de la gestion des risques interviennent en fonction de compétences qui sont associées à un certain territoire sur lequel leur exercice est légitime. Il convient donc d'analyser les risques à différentes échelles d'espace et de temps pour intégrer les pratiques de ces différents acteurs, autant dans la phase de prévention des risques que dans la phase d'intervention. Et on le voit bien pour le port au pétrole, où finalement la route traverse des zones d'aléas, mais le règlement, lui, s'arrête au niveau du périmètre à risque. Et c'est la communauté urbaine de Strasbourg qui gère l'espace de loisirs. Hein, donc il y a toujours ce souci de la gestion des risques où différents acteurs interviennent, mais sur des territoires qui ne sont pas les territoires du risque, hein, mais qui sont en lien avec ce territoire du risque. Plus globalement, ça soulève des questions. Des contradictions que l'on peut trouver aujourd'hui au niveau des agglomérations et qu'il faut intégrer dans des stratégies divergentes. Par exemple, comment concilier les demandes liées au développement durable qui consistent à densifier le bâti avec le nécessaire éloignement avec les activités industrielles. Comment préserver un cadre de vie attractif et sécurisé face au maintien du tissu industriel? Puisque dans le cadre du port au pétrole, il y a des riverains qui se posent la question. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une activité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que l'on maintienne une activité industrielle à haut risque à quelques kilomètres du Parlement européen? Donc remise en cause parfois de l'industrie. À Toulouse, par exemple, AZF à Toulouse, il s'agit, selon les termes de Patrick Pigeon que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, d'une réelle catastrophe dans la mesure où ça a conduit à supprimer la zone industrielle, l'industrie au sud de Toulouse, pour remplacer cette industrie par un centre de cancérologie et d'un développement tertiaire et de recherche. Donc, il y a ces questions à se poser de façon plus générale. Et pour répondre à ces questions, eh bien, on a besoin d'un certain nombre d'outils, d'informations qui permettent d'intégrer les différents enjeux et qui permettent de constituer un outil de concertation pour prendre des décisions. C'est l'objet de travail qu'on a effectué il y a maintenant 3-4 ans, plus déjà. Donc l'objectif qui consistait à développer une méthode d'analyse spatiale, un outil qui puisse intégrer les différents critères d'aléas, d'enjeux, de vulnérabilité pour analyser le risque à différentes échelles et d'autre part mettre à la disposition des acteurs des cartographies, des requêtes utiles à la concertation et à la prise de décision. Donc je vais peut-être aller assez vite parce que c'est plutôt public, je crois, d'historiens ici. Donc je vais juste vous montrer un petit peu la démarche. La démarche qui a consisté à caractériser plutôt des situations à risque que le risque pour essayer de sortir un petit peu de l'image aléa-vulnérabilité. Donc une situation à risque étant définie comme la combinaison et la variation en un lieu et à un moment donné, donc prise en compte de l'espace et du temps, des différents potentiels d'aléas, d'exposition, d'enjeux, de vulnérabilité. Donc l'objectif était d'articuler dans un système d'information géographique les différents critères se rapportant à ces deux espaces, espace exposé, espace physique exposé, espace social vulnérable, à différentes échelles spatiales et temporelles, de façon à pouvoir faire des requêtes utiles à la gestion des risques. En tout cas, utiles pour la concertation, dans le cadre notamment de la mise en œuvre de l'élaboration d'un règlement de PPRT. Au niveau de l'ALEA, trois échelles d'analyse paraissent nécessaires. L'unité de production, l'établissement en lui-même et puis la zone d'activité industrielle pour prendre en compte les interactions de risque. Avec quatre critères, donc des cartes se rapportant à quatre critères d'aléa, nature, intensité, probabilité, cinétique. Pour les enjeux et les vulnérabilités, la démarche a consisté à s'intéresser à deux échelles, l'élément exposé, puisque les décisions peuvent être prises à l'échelle du bâtiment, mais aussi des ensembles urbains homogènes, puisqu'en termes d'aménagement, on va plutôt s'intéresser à des ensembles homogènes plus vastes plutôt qu'à un seul bâtiment. Et donc la démarche consiste à localiser les enjeux, à les quantifier et à estimer leur vulnérabilité pour créer des cartes de synthèse ou pour croiser ces éléments avec les critères d'aléa. Donc des premières cartes ont été élaborées pour repérer les objets porteurs de population si l'on s'intéresse à l'enjeu humain. Donc créer des cartes avec tous les éléments ponctuels où il peut y avoir présence de population et ensuite créer des ensembles homogènes, mais sur des critères de vulnérabilité, par exemple habitat individuel, habitat collectif, activité, établissement recevant du public, ainsi de suite. Deuxièmement, quantifier les enjeux, c'est-à-dire aboutir à des cartes où on a la répartition de la population le jour, la nuit, aux heures de pointe, combien de personnes se trouvent à quel moment et où. Troisième type de carte, estimer les vulnérabilités des enjeux, c'est-à-dire avoir une carte sur la sensibilité physique de la population. Donc là, on a essentiellement repéré des établissements où il pouvait y avoir une population particulièrement fragile, des jeunes enfants, des personnes âgées, et puis moins fragiles dans les zones d'activité, par exemple. Analyser la protection de la population en ces lieux, le fait que la population soit plutôt à l'air libre ou à l'abri, et quelle est la qualité de cet abri. Alors là, ça demande quand même un travail un petit peu long, où on n'a pas toujours toutes les informations, mais il faut piocher un peu dans les cadastres, et puis parfois faire des enquêtes de terrain. Et donc, croiser tous ces critères pour arriver à des cartes de synthèse, c'est-à-dire les lieux où la vulnérabilité va être la plus forte, un peu comme les cartes d'aléas. L'objectif n'étant pas seulement d'avoir ces cartes de synthèse, mais plutôt de croiser ces éléments pour les analyser plus précisément. Par exemple, ici, on a les lieux où le niveau d'enjeu de vulnérabilité est le plus élevé, mais il s'agit de revenir sur les éléments qui définissent ce niveau d'enjeu et de vulnérabilité. Quelque chose d'assez interactif. Et puis enfin, arriver à croiser l'ensemble des critères. Quel est le nombre d'habitations dans une zone donnée, avec un type d'effet donné, incendie, explosion ou toxicité. Et ça de façon la plus interactive possible pour que ces documents puissent servir lors de la concertation entre les acteurs. Alors, cette notion de vulnérabilité va renvoyer à la notion un peu de résilience, puisqu'il n'y a pas que ces facteurs qu'on vient de voir qui doivent être pris en considération, mais aussi un certain nombre d'éléments se rapportant plus à des questions d'adaptation, à des questions d'organisation au moment de l'accident ou après. Alors, la notion de résilience est encore en plein développement conceptuel. Alors, il pourrait s'agir entre vulnérabilité et résilience, de deux approches a priori différentes pour étudier des systèmes soumis à des perturbations. La vulnérabilité renvoyant davantage à des critères de résistance, c'est-à-dire de fragilité des enjeux. La notion de résilience renvoyant davantage à des capacités de la société à faire face, à se remettre d'une situation. Donc on peut prendre la définition de l'homme en 2010 qui dit que la résilience urbaine est la capacité d'une ville à fonctionner alors que certains des composants du système urbain sont perturbés. Donc résister au moment de l'événement, garder ses fonctions au moment de l'événement, et à se reconstruire, c'est-à-dire retrouver ses fonctions ou les adapter à la suite de cette perturbation. Et cette résilience renvoie donc à d'autres critères que des critères tout simplement d'enjeux et de fragilité des enjeux. Ça renvoie à l'idée donc de supporter, d'absorber, de dépasser un événement. Et ça renvoie à des facteurs donc d'anticipation, de réaction, de récupération. Par exemple ici, la prise en compte de la perception des risques par la population. Ou encore l'accessibilité des secours ou l'écoulement d'un flux automobile pour l'évacuation. Donc, ou encore ici, le fait que le système d'alerte couvre bien ou non les périmètres à risque. Donc ça renvoie à des facteurs qui sont moins directement objectivables, qui nécessitent des enquêtes sociodémographiques, des enquêtes de perception, qui nécessitent de caractériser un réseau de transport avec sa densité, sa connectivité, sa capacité d'écoulement, mais qui peuvent être cartographiés et qui peuvent être croisés, intégrés dans un système d'information géographique au même titre que les autres critères. Donc si on fait un peu le point entre aléas, donc ce que je disais tout à l'heure, ce glissement entre faire face à un aléa, réduire les vulnérabilités et développer la résilience, eh bien on voit qu'il y a une continuité dans la prévention des risques, mais avec des angles d'approche qui sont différents. Faire face aux aléas, ça veut dire définir le risque comme la probabilité à porter atteinte à. Au niveau de la vulnérabilité, ce serait une propension des enjeux à subir des dommages. Au niveau de la résilience, ça voudrait dire une capacité de la société à absorber un choc. Concernant les facteurs à prendre en compte, dans le premier cas, il s'agit essentiellement de facteurs techniques. Dans le deuxième cas, de facteurs biophysiques liés à la fragilité des enjeux. Et dans le troisième cas, à des facteurs psychosociologiques, organisationnels ou politico-administratifs. Concernant les échelles spatiales, dans le premier cas, on a des zones d'aléas, définies donc essentiellement par les scénarios d'accidents potentiels. Dans le deuxième cas, l'échelle locale de l'espace exposé. Et dans le troisième cas, l'échelle du fonctionnement urbain, le fonctionnement de tout un territoire. Concernant l'échelle de temps, dans un premier temps, il s'agit surtout de gérer l'urgence. Dans le deuxième aspect des vulnérabilités, c'est la maîtrise du court terme. Et dans le troisième temps, on va chercher plutôt collectivement une dynamique sur le plus long terme. Et donc, tout cela demande la production d'informations spatiales variées, des cartes d'aléas, des multicartes concernant les enjeux et les vulnérabilités. Et dans le troisième temps, le couplage de systèmes d'information géographique, de systèmes multi-agents pour intégrer la dynamique des phénomènes. Alors aujourd'hui, il y a encore des défis qui se posent aux géographes. Cette façon de travailler permet donc de construire l'information et d'envisager le risque, permet d'agir sur différents plans. Et là, je rejoins des travaux qui sont réalisés par des géographes comme par exemple Pascal Metzger ou Robert Dercol qui ont travaillé sur la vulnérabilité territoriale. Ça permet d'agir sur les vulnérabilités des enjeux eux-mêmes, quelle est leur susceptibilité d'endommagement. Ça permet d'agir sur l'exposition aux aléas, classiquement, donc la probabilité des accidents, la localisation des enjeux. Ça permet d'agir sur l'organisation du territoire, la concentration des enjeux, les alternatives de fonctionnement, l'accessibilité des espaces. Et ça permet d'agir sur la préparation et la gestion de crise par des systèmes d'alerte ou des systèmes de communication, par exemple. Donc on voit qu'on peut encore très largement élargir le champ de la prévention et de la gestion des risques à travers justement la prise en compte de la vulnérabilité et de la résilience. Les défis qui se posent encore, c'est, pour exprimer la complexité des situations à risque, c'est d'intégrer les dimensions plus difficilement objectivables. Hein, les systèmes d'information géographique prennent en compte essentiellement des objets bien définis. Il est encore assez difficile de créer des cartes de perception, par exemple. De développer une interactivité très rapide de ces systèmes, de façon à ce que les documents cartographiques puissent être appropriés à temps réel lors des discussions entre acteurs. Et puis enfin, d'améliorer la compréhension de la dynamique spatiale et temporelle des événements par le couplage d'outils nouveaux pour prendre en compte notamment les effets de chaîne, les effets dominos, les effets d'interaction sur le territoire. Voilà.